BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. C'est quoi le job d'un DRH en 2021? C'est donner l'envie de se défoncer dans son job. Et c'est un boulot d'équilibriste. On va en parler avec Nathalie Servier, les DRH de Velvet Consulting. Le cancer en entreprise. 160 000 actifs par an apprennent qu'ils ont un cancer. Certains le cachent, d'autres le disent et se retrouvent au placard. En tout cas, nous, il faut qu'on en parle dans Happy Boulot le mag. La garde d'enfants, télétravail, c'est pas un mode de garde. Ne culpabilisez pas de laisser votre enfant alors que vous travaillez juste à côté. On va en parler avec une responsable de Déclic Éveil, c'est une solution de garde. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutive cette semaine, c'est Nathalie Servier, DRH de Velvet Consulting. Bonjour, merci.
Bonjour,
d'être venue nous voir dans Happy Boulot le mag. Velvet Consulting, c'est une entreprise de conseil en marketing. Vous aidez les entreprises sur leur positionnement client. 200 consultants, vous venez d'être acheté par WPP, leader mondial de la communication. Tout le monde est en télétravail ou pas?
Quasiment tout le monde là, ouais. En ce moment, on est passé en full télétravail avant le premier et le deuxième confinement. On avait un peu anticipé,
mais
on
est dans des. Est-ce que ça rase tout le monde ou pas?
Ça commence à être un peu lourd pour tout le monde, et en même temps on est sur des modes de travail qu'on maîtrise bien, auxquels on est habitué. Il faut juste qu'on soit vigilant sur les effets induits de la solitude, de la surcharge de boulot, des horaires qui s'interrompent pas. Donc c'est un vrai sujet, un vrai point de vigilance.
La crise sanitaire, vous, ça a changé votre job de DRH ou pas?
Alors non, ça n'a pas changé. Ça a enfoncé le clou sur ce qui était vital, sur le rôle qu'on devait absolument assurer. Et j'ai envie de dire que cette fonction, quasiment, elle n'a jamais eu autant de sens que pendant cette crise-là. Tout dépend de la façon dont on l'exerce.
De sens et de contrainte, parce que tout pèse sur le DRH. Ça devient lourd.
Ouais, mais moi j'ai tendance à penser qu'on est sur un job d'équilibriste, déjà par définition au départ, même en dehors des contextes de crise. Donc,
entre quoi et quoi?
Entre la création de valeur pour un business, parce que et au-delà du cliché HR BP classique auquel j'adhère pas.
Enfin, c'est une entreprise, quoi. Il faut qu'elle fasse du chiffre d'affaires.
Voilà, et on est là aussi pour accompagner, pour créer les conditions de la création de valeur pour le business, mais à l'exact même niveau d'exigence, on doit être là pour accompagner les gens et pour leur permettre eux aussi de créer la valeur pour eux-mêmes. À travers, non pas la notion de bien-être ou de bonheur au travail qu'on a beaucoup entendu, mais à travers la notion d'accomplissement qui est quand même un tout petit peu différent en termes de concept.
Alors comment on arrive à mettre en adéquation le bien-être de l'entreprise, c'est-à-dire faire du chiffre d'affaires, et le bien-être du salarié qui doit s'accomplir dans son job? Est-ce que parfois justement il n'y a plus d'adéquation?
Ouais, alors oui, évidemment, par définition, c'est une équation qui n'est pas simple à résoudre toujours, mais nous, on a un parti pris très fort chez Velvet. On est dans un secteur d'activité, le conseil, qui pourrait paraître formateur au départ. Et on s'est positionné aux antipodes de ça. C'est-à-dire que nous, on réfute complètement la construction d'une armée de clones. On défend les singularités et on défend des parcours ultra individualisés où finalement chacun peut venir inventer sa propre histoire chez Velvet. Donc quand on recrute quelqu'un, on le recrute pas tant pour ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il sait déjà faire. C'est bien, mais ça suffit pas. On le recrute pour ce qu'il a envie de faire chez nous, et on invite tous les collaborateurs qu'on recrute à venir pousser les murs, en fait.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'entretien, vous allez faire quasiment des entretiens de personnalité? Vous voulez des gens qui viennent avec un projet?
Alors là, on est par exemple dans une dynamique de forte croissance qui a été renforcée.
Vous allez recruter 100 consultants, c'est ça?
Voilà, on va recruter 100 personnes cette année. On est sur un modèle hybride qui allie les compétences du conseil en marketing, de la tech, de la data, de la créa. Donc il y a un champ des possibles d'expression des talents qui est absolument phénoménal. Et on fait évidemment, on va aller chercher des profils qui détiennent certaines expertises ou certaines compétences. Mais à part, ça fait pas tout en fait. Quand on fait venir des gens, parfois on ne sait même pas pour quel poste on les fait venir. On les rencontre, on leur demande de quoi ils ont envie. Et d'ailleurs tout l'accompagnement des parcours derrière chez Velvet se fait autant sur la base des appétences que des compétences. On joue sur ces deux axes-là. Et voilà. Et donc, quand les gens viennent, on leur demande de quoi ils ont envie et ce qu'ils ont envie d'écrire avec nous, en fait.
Mais c'est quoi? C'est une obsession pour les idées? C'est-à-dire qu'il ne faut pas rater une idée, donc alors, il faut pas, leur laisser la possibilité de penser en permanence?
C'est une obsession que j'ai, moi, à titre personnel, et qu'on partage au niveau de l'équipe dirigeante de Velvet, de laisser s'exprimer, de laisser jouer à plein des potentiels. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de brider des talents qui... Nous, notre boulot de DRH, c'est de créer les conditions pour que les talents ou les potentiels s'expriment. Voilà, c'est le seul job, si on doit retenir une seule mission, c'est celle-ci. Au bénéfice de la création de valeur pour le business
mais
et
alors
pour
du
les
coup,
gens.
Du coup, vous faites comment dans, quand une fois que vous avez les mains dans le cambouis, vous les appelez, alors, vous dites « t'as une idée aujourd'hui ?» Non, bon, bah, je te rappelle alors, demain. Alors,
déjà, le fait de le dire et de dire à tout le monde, c'est pas simplement de le dire, mais de le laisser faire, que tout le monde a le droit de créer son propre terrain de jeu, c'est déjà, symboliquement, c'est déjà fort. Il suffit pas de le dire. Nous, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Par exemple, l'Open Codir, qu'on a déjà mis en place il y a 2-3 ans, où n'importe qui dans le cabinet, sans condition de grade ou de niveau ou de quoi que ce soit, peut venir proposer un nouveau terrain de jeu, une nouvelle offre, l'élargissement de certaines approches ou d'autres méthodes de travail, ou un nouveau business, peu importe, il n'y a pas de préformatage des idées qu'on peut venir défendre. Et donc, on examine les propositions qui sont faites et on a comme ça un certain nombre de gens qui ont vraiment écrit leur propre feuille de
mais
route.
Mais combien ont des idées qui sont bonnes par rapport à ceux qui ont des idées à qui il faut dire non?
Alors, je dirais que il y a un petit travail de réflexion et d'accompagnement qui se fait avant que les gens arrivent jusqu'en Codir. Donc, en général, quand ça arrive en Codir, ça tient déjà bien la route. Il y a très, très peu d'idées qu'on a auxquelles on a dit non. Souvent, c'était plutôt revient avec en complétant ton approche. Et on a eu des très belles réalisations. On a une personne qui était dans l'équipe tech qui a ouvert la filiale au Maroc. La Velvet Academy, c'est issu aussi de l'Open Codir. Le projet RSE qui est porté par des consultants dans le cabinet, c'est aussi issu du Codir. Donc voilà, il y a de l'Open Codir, pardon.
Mais comment vous faites pour que ça parte pas dans tous les sens? Parce qu'une entreprise, c'est quand même une stratégie tenir.
C'est pas très grave en fait. On a des fondamentaux qui sont organisés autour des missions pour nos clients, autour de la transformation de l'expérience client. Et sur la façon de le faire, en fait, on peut. Nous, on est au contraire, on passe nos temps à avoir envie d'être disruptés sur la façon qu'on a d'envisager ce métier.
Vous dites disruptez-nous, allez-y.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Et d'ailleurs, la naissance de l'Open Codir, c'était un peu ça au départ. C'était dire. On a besoin d'avoir des petits poils à gratter ou des petits aiguillons qui viennent nous chatouiller au quotidien.
Donc ça veut dire que vous considérez que la direction n'a pas le monopole des idées.
Absolument
et qu'il faut
pas.
Les partager, que ça peut venir de partout. C'est pas un peu déstabilisant pour certains managers?
Peut-être. Alors ça fait partie en même temps de notre ADN, des valeurs qui sont clés autour de l'empowerment des collaborateurs. Ça incarne un certain modèle de leadership. Et ça se travaille, ça s'accompagne. C'est aussi mon job un petit peu d'accompagner ça auprès des dirigeants ou des futurs dirigeants pour que justement tous ces freins éventuels... Après, on est sur des populations chez Velvet qui sont relativement jeunes, y compris chez les managers. Mais c'est même pas qu'une question d'âge. C'est mon boulot ou c'est le boulot de l'équipe RH aussi
là-dessus.
D'accompagner là-dessus la maturation des postures, des approches, des pratiques managériales. Ça fait partie de notre boulot, ça.
Le gros sujet chez les consultants, c'est quand même l'adéquation avec la mission. Il y a des initiatives qui se créent par-ci, par-là pour faire en sorte de matcher au mieux la mission avec le consultant. Vous avez des consultants qui disent « j'en peux plus de cette mission, oui, celle-là, j'en veux pas, ce client, j'en veux pas ». J'ai entendu ça notamment chez des grosses groupes, des jeunes qui arrivent en disant tel client c'est mort, c'est même pas la peine de me le proposer.
Ça peut nous arriver d'avoir un effet de saturation, par exemple notamment sur des missions qui sont un petit peu longues. Donc nous on fait attention justement de pas laisser trop longtemps nos consultants chez un même client pour qu'il puisse continuer à enrichir son expérience et ses compétences. Les fois où il y a une incompatibilité d'humeur brutale avec le client, c'est quand même pas si fréquent, heureusement.
Mais c'est pas des incompatibilités de valeur maintenant. Enfin, je vois moi, c'est ça qui monte.
Ouais. Alors après, on s'autorise aussi au niveau du management de Velvet ou de la DRH d'intervenir s'il y a des pratiques qui correspondent pas à notre éthique, à nos valeurs. Le client n'est pas toujours roi, entre guillemets. En tout cas, encore une fois, il faut que ce soit au bon équilibre. C'est-à-dire, la satisfaction du client, elle ne peut pas se faire au détriment du consultant. Et vice-versa, d'ailleurs. C'est vrai dans les deux sens. Donc, on est en permanence en train de travailler cet équilibre-là. C'est pour ça que je disais que je dis souvent que le DRH est un équilibriste en fait sur.
Vous allez avoir le droit au même petit quiz que tout le monde. Vous me dites stop ou encore les CV, on continue ou on arrête?
Plutôt stop.
Vous en avez marre?
En fait, d'abord, le CV en tant que tel, je dis pas qu'il est inutile, mais il suffit pas. Et puis, c'est bien de savoir que ce que quelqu'un a fait, ça nous dit rien sur ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il saura faire après. Donc.
Les horaires, on continue ou on arrête?
Les horaires?
Oui. Vu votre les horaires, mais qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que les horaires?
Donc, a priori, on arrête.
Non, on est sur. Il y a un vrai point de vigilance sur. Le fait de pas déborder, ouais, et le télétravail un peu permanent comme ça ouvre des possibilités de dérapage, donc il faut on est très vigilant là-dessus. Mais les horaires en tant que tels, non, c'est
les tests de personnalité, vous en faites?
Alors c'est pas exactement des tests de personnalité qu'on fait chez Velvet. Moi, je suis assez fan des tests, mais plutôt ce que j'appelle des tests de préférence comportementale. En fait, les tests qu'on utilise chez Velvet nous disent pas lui est blanc, rouge, jaune ou noir ou je ne sais, ou que sais-je. On est sur des photos de préférence comportementale qui vont nous parler des besoins que les gens ont pour travailler dans des conditions optimales. Voilà. Est-ce qu'ils ont besoin d'être seuls, avec du monde,
d'interagir? Mais en fait, vous êtes obsédé par le fait que les gens restent.
Alors oui, si possible les meilleurs. Moi, c'est pas tant sur le fait qu'ils restent. J'ai envie qu'ils restent tout le temps où ils s'éclatent et où ils vont continuer à créer de la valeur et pour eux et pour la boîte.
70% des gens s'ennuient dans leur boulot.
C'est pas ça, chez Velvet, c'est... je crois pas.
Et s'ils s'ennuient, il faut qu'ils arrêtent.
Absolument. S'ils s'ennuient, c'est qu'ils n'ont pas le bon terrain de jeu. Il vaut mieux aller chercher ailleurs.
Merci beaucoup, Nathalie Servier, DRH de Velvet Consulting, d'avoir été avec nous. On va parler d'un sujet important. Je crois que vous avez aussi ce sujet dans l'entreprise. On va parler du cancer au travail. Comment réagir quand on a quelqu'un qui déclare son cancer? On va essayer de voir ça au mieux.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler du cancer en entreprise. Comment accompagner au mieux un collaborateur qui est malade? On est avec Julien Leclerc. Bonjour.
Bonjour Laure.
Vous êtes chef d'entreprise, restaurateur. Vous avez une agence de presse culinaire. Vous avez une entreprise avec une cinquantaine de salariés, 50 depuis 10 ans. Vous avez été confronté 4 fois à des salariés qui ont un cancer. Est-ce que vous avez toujours su bien réagir ou aujourd'hui vous êtes mieux confronté vu que vous connaissez la réalité?
Alors toujours su, non, la réponse est évidente, on sait pas, comme plein d'autres choses dans notre quotidien de chef d'entreprise, il y a pas vraiment d'école, on arrive sans savoir et on doit vivre et on doit gérer et on n'a pas le choix. Et est-ce que je suis mieux armé aujourd'hui? J'ai plus d'expérience, c'est sûr, mais je sais pas si on peut s'armer contre ce genre de choses. On est confronté sans doute, là on parle d'un des sujets les plus lourds du quotidien de dirigeant qui est l'occasion de rappeler aussi qu'on est souvent confronté à une image un peu caricaturale du patron salaud et c'est dans ces moments-là on est d'abord des hommes et des femmes très inquiets pour la santé de nos collaborateurs. Il n'y a rien de plus important. C'est des moments franchement difficiles. Ouais.
Il y a 160 000 actifs qui apprennent chaque année qu'ils ont un cancer, donc ça concerne énormément de monde, salariés comme chefs d'entreprise. Quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise, à un chef d'équipe qui apprend par directement son collaborateur qu'il est malade?
Le premier, ce serait de partager. On est souvent seul, on se plaint. La solitude du dirigeant, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. On est souvent seul devant des bons moments, des mauvais moments de nos quotidiens. Et je crois que dans ces moments vraiment particulièrement difficiles, il faut qu'on partage, il faut qu'on échange. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une association qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, qui nous pousse beaucoup à cet échange, à l'humanisme, au partage. Et je sais que dans ces moments-là, ça m'a fait beaucoup de bien de pas me sentir seul dans une situation qui, malheureusement.
Oui, mais l'information, elle vous vient, vous n'êtes pas forcément préparé à la recevoir.
Non, mais justement, dès qu'on la reçoit, vous savez, on a une posture assez naturelle quand on est dirigeant de la responsabilité. On se sent responsable de tout, on prend de la hauteur, on prend du recul, on se dit faut gérer. Et en fait, dans ces moments-là, on est bouleversé, on est hyper triste, on est hyper inquiet, et on n'a pas les armes. Et c'est encore plus compliqué d'avoir les armes quand vous êtes dans une situation émotionnelle assez dramatique. Donc c'est hyper important, je crois, d'échanger et de pouvoir échanger avec des gens qui ont déjà vécu ça. Donc c'est vraiment, pour moi, le premier conseil, c'est ne gardez pas tout ça pour vous tout seul, parce que c'est trop.
Mais comment on répond au salarié lui-même?
Là, c'est d'abord faire preuve d'humanité, évidemment. Être soi, je crois. Je crois être soi, c'est aussi se donner le droit, dans ces moments-là, d'exprimer notre tristesse et notre ressenti. C'est un droit qu'on ne se donne pas souvent, hein, quand on est dirigeant. on essaye d'intérioriser. Donc c'est se donner le droit, et je crois le montrer aux salariés, qu'on est d'abord dans l'empathie, et après c'est tout un tas de choses plus concrètes qui sont peut-être plus faciles d'ailleurs à aborder.
C'est-à-dire lui demander comment il veut continuer à travailler,
aménager son temps de travail, et ce qu'il veut continuer. La réponse ne doit pas être automatiquement « tu t'arrêtes ». C'est à lui de faire ce choix-là. Il y a des gens qui, d'abord, il y en a qui n'ont pas le choix, qui doivent s'arrêter, et il y en a qui ont le choix et qui préfèrent qu'on continue à travailler, malgré tout, dans un certain aménagement, avec moins de stress, plus de souplesse dans les horaires, etc. Bon, ça, c'est du concret, c'est un peu plus facile à mettre en place. On doit être énormément dans l'écoute, dans l'empathie, et puis nous occuper d'organiser son espace de travail.
Oui, mais dans une entreprise où il faut quand même produire, on est dans un cycle, on est dans une entreprise qui n'est pas toujours dans l'écoute, dans l'attente, et qui ne suit pas le rythme des salariés, là, il va falloir se mettre au rythme de celui qui vous confie sa maladie.
Oui, alors je crois que c'est vrai très souvent dans d'autres cas plus légers que celui-là. On doit souvent se mettre au rythme quand même, être à l'écoute. Notre force, notre outil de travail, c'est l'humain. Donc plus que jamais dans ces moments-là, on doit être hyper en posture d'écoute, d'empathie. Je le redis, je suis désolé, je répète, mais c'est un mot vraiment très 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 à propos, et d'une grande souplesse. Sans doute. On doit prendre soin de notre outil de travail qui est l'humain. Je crois que c'est le moment d'affirmer nos valeurs auprès du reste de l'équipe aussi. C'est hyper important. Moi, j'ai vécu quatre, vous l'avez dit. Ça a été des moments très difficiles. Ce sont aussi des moments où j'ai vu de très belles choses dans ma boîte, avec un grand élan de solidarité, des gens hyper concernés, très tristes par moments, beaucoup, beaucoup de solidarité auprès des personnes malades. Et je crois que c'est le moment de réaffirmer ces valeurs.
Et après, vous avez discuté avec ces personnes-là de leur choix de communication? Est-ce qu'ils ont envie d'en parler autour, ou est-ce qu'ils veulent rester plutôt secrets?
J'ai eu les deux cas. J'ai quelqu'un dont on l'a appris après, bien après. Donc pour le coup, tout ce que je vous dis, c'est pas passé. On n'a pas aménagé, on a rien fait. Je l'ai su 6 mois après que ça soit terminé, bien. Voilà. Et après, il y a eu des cas plus lourds où là, on a été au courant dès le départ. Là encore, on doit être respectueux. La plupart du temps, les gens vont venir nous le dire à nous. Et après, son maître de la communication, il nous dit surtout, tu le dis pas, c'est moi qui vais l'apprendre à mes collègues au bon moment, pas tout de suite. On est beaucoup en relation aussi avec la famille dans ces moments-là. Voilà, parce que c'est un travail en commun, quoi.
Mais est-ce que vous pensez, vous, en tant que chef d'entreprise, avec l'expérience que vous avez, qu'il faut en parler, qu'il faut être transparent avec les équipes, pour ne serait-ce ne pas faire d'impair, ne pas être vexant, que ça se passe bien?
Je crois qu'il faut respecter la volonté du salarié. Donc, est-ce qu'il faut en parler? Oui ou non. S'il nous dit qu'il veut absolument pas en parler, on va pas le faire. On peut lui exprimer notre avis. Moi, je suis plutôt ma posture de dirigeant, c'est d'être dans la transparence, la communication, et oui, dans l'échange en permanence. Maintenant, si j'ai un salarié devant moi qui me dit, écoute, je te le dis à toi, mais je veux surtout pas que ça sorte, ça doit pas sortir. Ma responsabilité est d'abord de l'écouter et de tout faire pour que lui puisse se consacrer à sa guérison dans les conditions auxquelles il l'entend. Si c'est en travaillant, il travaillera. Si c'est en travaillant plus, il travaillera.
Comment on fait en sorte de faciliter le travail le plus simplement possible, qu'il n'y ait pas de mise à l'écart, qu'il n'y ait pas... d'ailleurs, en voulant bien faire, en disant ce projet-là, c'est peut-être trop difficile, etc. Comment on fait pour traiter l'autre correctement?
Je crois qu'il faut dire, on peut se planter. Vous l'avez dit, c'est la frontière entre la bonne réponse et la mauvaise. Il peut y avoir des maladresses. En plus, on est dans des moments, encore une fois, émotionnellement compliqués. Donc, il y a beaucoup de susceptibilité. Je crois qu'il faut dire, écoute, j'ai pensé que c'était mieux pour toi si on faisait ce dossier-là où tu avais juste un regard, mais t'étais peut-être moins au milieu parce que c'est un dossier particulièrement stressant. Comme ça, l'autre a la possibilité de dire, le salarié peut dire, mais attends, non, c'est mon dossier, tu vas pas me l'enlever, ça veut dire quoi, tu me mets à l'écart? Faut surtout pas qu'il se sente mis à l'écart s'il ne le souhaite pas. Et en même temps, on doit surtout, quand même, malgré tout, avec son accord, essayer d'aménager au moins la gestion du stress, parce qu'on, enfin, on sait qu'il y a quand même des choses qu'il faut éviter quand on est en traitement cancéreux. Dans l'écoute, et dans une posture la plus humaine possible. Je pense que ce sont des moments où nous, dirigeants, et c'est assez rare, je crois qu'on a vraiment le droit d'afficher nos limites humaines, de montrer qu'on est triste, de montrer qu'on est inquiet, de montrer qu'on n'a pas tous les outils, qu'on ne sait pas complètement comment faire, mais qu'on va essayer de faire le mieux possible avec cœur.
Merci Julien Leclerc d'être venu discuter avec nous dans Happy Boulot le Mag. On reparlera du cancer dans l'entreprise. 160 000 actifs apprennent chaque année qu'ils ont un cancer, et certains continuent de travailler, et ça peut se passer du mieux possible. Merci beaucoup. On va parler garde d'enfants. Le télétravail n'est pas un mode de garde, et on va vous dire pourquoi.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business case.
Télétravail, fermeture des écoles, la crise sanitaire a complexifié un petit peu la vie des parents, un petit peu le mot est faible. On est avec Julia Tiburzi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable d'une agence Déclic Éveil à Paris. Vous êtes psychologue clinicienne. Déclic Éveil, ça fait de la garde d'enfants. C'est une entreprise familiale. Il y a 7 agences en France. Dans quel état sont les parents actuellement?
Paniqués.
Ouais.
Survoltés. On a beaucoup de parents en difficulté, du coup, pour allier vie professionnelle et vie privée. Et du coup, qui font appel à nos services, justement, pour les soulager dans leur quotidien. Bon, ça a toujours été notre objectif de les soulager, mais c'est vrai qu'encore plus dans cette période.
Là, vous voyez des parents qui vous appellent pour dire demain, mon enfant est cas contact, je sais pas quoi en faire. Il y a beaucoup de. Plus de demandes du jour pour le lendemain ou pas?
Justement, c'est vrai que donc Déclic Éveil fonctionnait, on a toujours fonctionné en garde ponctuelle, mais c'est vrai qu'on a à cœur quand même de proposer des gardes assez longues pour accompagner les familles sur plusieurs années. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a vu beaucoup de parents paniquer pour qu'ils puissent avoir une solution de garde du jour au lendemain. Parce que crèche fermée, école fermée, ou parce que cas contact assez éloigné, et du coup nos intervenants se déplacent à domicile pour justement apporter une aide.
Donc les parents, vous les trouvez stressés, survoltés. Qu'est-ce qui vous demande à travers les personnes qui viennent garder leurs enfants, parfois de remplacer l'école, de faire juste de la garde?
Alors bon, déjà, nous, c'est vrai qu'on Déclic Éveil se positionne pas uniquement sur une simple surveillance des enfants. On est vraiment déjà sur une garde active où nos intervenants sont vraiment dans l'éducation des enfants, proposent du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs, des activités créatives. Donc on fonctionnait déjà de cette manière-là, mais c'est vrai qu'encore plus avec le Covid, forcément, puisque les écoles sont un peu suspendues, les enfants ont pris du retard sur leurs acquis, leurs compétences scolaires, et du coup, nos intervenants sont là pour remédier à ces difficultés qu'on rencontre, et notamment dans le handicap, puisque nous avons un agrément handicap qui nous permet d'aider les enfants qui sont dans cette situation-là, et beaucoup de structures ont été fermées, et des enfants se sont vus avec des troubles du comportement plus sévères. Donc nos intervenants ont été aussi là pour encadrer un petit peu justement ces prises en charge et faire en sorte que les enfants soient toute bienveillance.
Avec le télétravail, le travail des nounous a changé ou pas? C'est-à-dire qu'on a des parents qui sont là, à moitié là, qui parfois sont à côté de la garde d'enfants. Ça a changé quelque chose ou pas?
Mais complètement, en fait, la majorité de nos parents sont présents sur le temps de garde.
Ça, c'est nouveau quand même.
C'est nouveau. Ouais. Habituellement, les parents ne sont pas présents. Mmh. Et du coup, les intervenants doivent redoubler d'imagination pour occuper les enfants et de créativité. Parce que forcément, un parent qui est présent sur le temps de garde, eh bien, c'est un enfant qui a envie d'aller le voir, ouais. De le solliciter. On a tous l'exemple d'enfants qui passent derrière la caméra en visioconférence, mais c'est vrai que ça a été vraiment le cas de...
Donc ça change sur la créativité des nounous, mais est-ce que ça change aussi leur travail? Elles se sentent un peu plus regardées ou... Ça les dérange ou pas du tout? Alors, moi, je préfère garder des enfants sans qu'il y ait des parents. Les grands-parents disent toujours ça. On préfère garder les enfants quand il n'y a pas les parents.
C'est ça. Mais après, nous, en tant que responsable d'agence, on est psychologue clinicienne, donc on est aussi formés pour vraiment les accompagner. Donc, on est là aussi pour leur dire, prenez les parents plutôt comme des alliés et pas comme des personnes qui vont regarder, observer votre travail. Prenez-les justement main dans la main avec vous pour faire en sorte que les enfants s'épanouissent et soient à l'aise tout au long de la garde, et justement qu'ils ne ressentent pas cette
pression.
Cette pression, et puis l'enfant aussi qui peut être frustré de voir son parent sur le temps de garde et qui ne comprend pas toujours pourquoi son parent ne peut pas s'occuper de lui, et nos intervenants sont formés justement à la psychopédagogie de l'enfant. Donc ils ont aussi ce regard un peu d'observation, et quand vraiment c'est difficile, ils nous contactent pour qu'on puisse leur proposer des conseils.
Et alors vous leur dites quoi? Explique, maman travaille à côté.
Oui, c'est toujours de commencer déjà par une explication concrète de ce qui se passe. Il faut utiliser les mots qu'on utilise nous-mêmes. Et c'est après de redoubler de créativité et d'imagination pour occuper les enfants et pour faire en sorte qu'ils passent un bon moment avec l'intervenant. Et en fait, souvent, c'est quand même assez... Ça arrive plutôt au début de garde, après, quand il y a un vrai lien qui est tissé en fait entre l'enfant et l'intervenant, et bien après ça fonctionne assez
bien. On a eu beau répéter que le télétravail n'était pas un mode de garde, il y a une certaine culpabilité du parent à se dire je suis là, donc autant ne pas prendre quelqu'un.
Oui, mais après, de pouvoir se libérer à 16 heures pour récupérer ses enfants, c'est pas toujours évident.
Et
c'est
non,
pas
ou même qu'on... les avoir toute la journée pour ceux qui sont pas
oui,
à l'école.
On ouais. a, oui, on a aussi des parents qui font vraiment appel à nous en journée complète quand la classe est fermée. Du coup, l'enfant se retrouve à la maison. Du coup, nos intervenants arrivent pour justement solutionner un petit peu cette problématique. Et on a des parents un peu paniqués aussi qui nous appellent en disant « Mais j'ai un gros sentiment de culpabilité. Je suis présente à la maison, mais je peux pas m'occuper de mon enfant. » On est là pour les écouter avec toute bienveillance et leur faire comprendre que bah, c'est le cas de millions de personnes.
Et ça fonctionne. On peut avoir quelqu'un qui garde vos enfants dans la pièce à côté.
Oui.
Il faut déculpabiliser les parents. Elles sont, ça a changé vraiment les rapports entre nounous, agences et parents, cette crise sanitaire.
Ça a rapproché en fait, ça a vraiment, en tout cas on amène quand même un dialogue un peu plus spontané. C'est vrai que même si on a toujours accompagné nos intervenants, nos familles, les enfants, parce que notre point central c'est quand même le bien-être des enfants, mais c'est vrai que ça a quand même rapproché. On a beaucoup de personnes qui plus spontanément vont venir en agence ou nous contacter pour avoir des conseils sur comment... gérer le moment des devoirs qui est devenu un peu plus compliqué.
C'est clair, ouais.
Voilà. Occuper les enfants, trouver des activités. On a mis un compte Instagram aussi pour leur donner quelques idées. Et des parents aussi qui nous contactent parce qu'ils ont besoin de solutions et de réflexions autour de la prise en charge des enfants.
Merci beaucoup, Julia Tiburzi, responsable agence de Déclic Éveil Paris, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à faire appel à Nounou si vous êtes en télétravail. On vous le dit, il faut le déculpabiliser. Happy Boulot, le Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot, le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.